Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Le débrief de la matinale de BFM Business et de RMC est découverte avec ce matin Christian Parizeau, économiste et conseiller économique chez Aurel BCG, Carole Juge Léoéline, présidente et fondatrice de June, Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez PICTAM, et Jean-Baptiste Thuet, journaliste de BFM Business, spécialiste des questions spatiales. On commence par évidemment cette réunion cruciale de la BCE aujourd'hui, réunion cruciale pour les économies européennes, décision de politique monétaire très attendue. On retrouve Laure Clausier depuis Francfort. Laure, il n'y a pas beaucoup de suspense, on s'oriente vers une baisse.
Oui, évidemment, hein, 0,25 points, hein, c'est ce qui est anticipé par les marchés, c'est ce qui est annoncé par les gouverneurs, notamment François Villeroy de Galhau qu'on a croisé il y a quelques instants, qui disait effectivement aujourd'hui aucun suspense. Le problème c'est, et après, c'est la suite, quel est le calendrier de baisse des taux. A priori, une pause dès juillet, ça pourrait ensuite donner un calendrier trimestriel avec d'autres baisses attendues. Le problème c'est l'inflation. Est-ce que cette inflation en zone euro est vraiment terrassée? On a eu des chiffres vendredi dernier sur le mois de mai avec une petite hausse, on est à 2,6% sur un an, c'est plus qu'au mois d'avril. Alors évidemment, on est très loin des 10-11% qu'on a connus en octobre 2022, mais quand même le signal n'est pas terrible. Et puis on a ces prix du fret qui augmentent très fortement, ces matières premières sur certains points qui sont quand même très élevées encore. Donc cette question d'inflation, c'est une épine dans le pied pour la Banque Centrale Européenne. Et puis il y a la Fed, d'un côté américain, ce pivot annoncé par Jerome Powell se fait attendre. On aurait une décorrélation entre les décisions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Pour combien de temps ça peut durer? Toutes ces questions, Christine Lagarde y répondra. 14h15, décision de politique monétaire. 14h45, conférence de presse. Et puis, interview exclusive de Christine Lagarde. Ça, c'est demain à 8h15.
Les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup. Laure Clausier, Christian Parizeau. La question désormais, la baisse est actée. C'est quoi la suite?
C'est la même question parce que, d'une part, bon, faut être honnête, on a plutôt des indicateurs qui sont un petit peu plus positifs sur l'économie européenne. Donc, ça veut dire que la politique monétaire ne pèse pas excessivement négativement sur la croissance. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des secteurs qui souffrent, l'immobilier, il y a plein de secteurs aujourd'hui qui sont très clairement pénalisés par la politique de la BCE, mais il n'y a pas un signal de récession prochain de l'économie européenne. Donc ça lui laisse du temps pour ajuster sa politique monétaire. Et puis, il y a un autre élément, moi je dirais que c'est pas l'inflation qui les inquiète le plus, c'est plutôt le fait que les salaires progressent trop vite par rapport à la productivité. C'est-à-dire que si je vous augmente, mais que vous êtes beaucoup plus productif, c'est pas très inquiétant pour la BCE, c'est pas gênant finalement, votre productivité absorbe le hausse du coût du travail. Aujourd'hui, on est sur un coût du travail qui reste encore très fort, même s'il ralentit, mais avec des gains de productivité qui sont négatifs dans la zone euro. Ça veut dire que ce qu'on appelle les coûts salariés unitaires, coût total du travail moins gains de productivité, sont aujourd'hui très élevés. Et c'est pas compatible à moyen terme avec une inflation à 2%. Et c'est ça surtout qui les inquiète, parce que la dynamique d'inflation, il peut y avoir des bosses. C'est Mme Lagarde elle-même qui nous avait dit qu'une petite réaccélération de l'inflation, c'était assez attendu par la BCE.
Au mois de mai, donc, c'était attendu.
Voilà, ouais. Il y a des effets de base, il y a plein d'éléments un peu techniques qui jouent. Donc ces bosses-là, ça ne les inquiète pas outre mesure. Par contre, le vrai noyau dur, ce qui fait vraiment l'inflation et ce qui fait que l'inflation dure, c'est quand vous avez une boucle prix-salaire, lorsque les hausses de salaire entraînent l'inflation.
Justement, ces hausses de salaire en Allemagne, Aude Gaise, économiste chez S&P, disait à l'instant à Laure Clausier depuis Francfort qu'il y avait eu 4,7% de hausse de salaire
en moyenne
en Allemagne.
Pas la zone euro. En Allemagne,
pour
on est
la
à
zone 6. Euro. Et pour l'Allemagne, elle disait que c'était un rattrapage finalement.
Oui. Oui,
et
c'est
que l'année
rattrapage.
Prochaine, ça serait la même chose.
Je suis entièrement d'accord. Ouais. C'est un rattrapage. On est tous d'accord que ça va ralentir, que ça va pas rester à 4,7 et que l'indicateur va baisser. Puis on a des indicateurs avancés. Hein. On a notamment l'indicateur Indeed qui nous dit qu'on est plus proche des 3% que des 4,7. Donc, alors Indeed mesure juste l'inflation au niveau des offres d'emploi. Donc, on voit qu'il y a quand même un vrai ralentissement. Mais encore une fois, le gros problème, c'est que la productivité du travail est négative. Donc, même à 3% de hausse de salaire, vous allez me dire c'est pas énorme et je suis d'accord. Mais à 3%, quand vous avez une productivité du travail qui baisse, ça veut dire que les coûts salariaux ne sont pas supportables. Donc on espère tous que ce ralentissement de la productivité est ponctuel, on espère tous que les salaires vont continuer à ralentir, mais attention, il y a beaucoup d'incertitudes. Je ne vous dis pas que je suis forcément négatif, et la BCE n'est pas forcément négative, sinon elle ne baisserait pas ses taux aujourd'hui, mais il y a encore suffisamment d'incertitudes pour qu'elle soit très prudente dans ses prochains mouvements. Parce que le pire des scénarios pour elle, ça serait de baisser ses taux et de devoir les remonter ensuite en disant je me suis trompé, l'inflation va rester beaucoup plus durablement au-dessus de 2. Donc c'est pas pas les derniers chiffres d'inflation, à mon avis, qui sont vraiment le problème. C'est vraiment les salaires qui progressent trop vite au regard de la productivité du travail qu'on observe aujourd'hui. On espère que ce ralentissement de la productivité est que ponctuel et qu'il va réaccélérer dans les prochains mois.
Donc, vigilance sur les salaires pour vous, Christian Parizeau. Carole ?
Il y a un sujet autour du salaire, c'est-à-dire que c'est pas un bouton qu'on peut, sur lequel on peut appuyer et enlever, entre guillemets, à guise, parce qu'en fait, on a des gens en face. Et en fait, les gens, quand pendant un an, deux ans, vous avez des augmentations salariales qui sont assez importantes, justement parce qu'il y a des effets de levier à cause de l'inflation, comment vous leur dites au bout de la troisième année ? Alors en fait, par contre, maintenant, on va faire un rattrapage, entre guillemets, inverse. Donc cette année, tu auras 0 ou tu auras 0,5. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un climat social qui est vraiment pas simple. Et donc, si derrière, on sort de cette phase-là, qui a quand même été difficile, en allant chercher justement un niveau acceptable, entre guillemets, d'augmentation salariale, on risque d'autres problèmes. Il y a, à mon sens, plus sur la partie vraiment bien-être social ou, je sais pas comment on dit en français, unrest, mais les gens seront pas contents. Et de toute façon, on le voit bien. Alors la France, en plus, on est champion de ça, mais toutes les semaines, il y a un nouveau syndicat qui demande des trucs pour les JO. Vraiment,
c'est les JO aussi qui catalysent.
Mais les JO catalysent un énorme truc, mais en fait, comment ça se passe après ? Qu'est-ce qui se passe dans un an quand on va dire aux gens, en fait, les JO, c'était derrière. L'inflation, c'est bon, maintenant, on n'a plus besoin d'augmenter vos salaires. Donc là où pendant 2-3 ans, vous arrivez, vous avez 3, 4, 5, 6%, on va dire, c'était génial cette année, mais tu auras 1%. Mais les gens, ils vont juste faire la gueule. Ouais. C'est ça la conséquence, à mon sens, un peu intangible.
Christopher Dembick, donc la BCE devrait baisser ses taux aujourd'hui. Première baisse de taux. D'autres baisses attendues d'ici la fin de l'année. Hautgaise, encore une fois, économiste de S&P, parlait d'une baisse en septembre, puis en décembre. Et la Fed, en revanche, la Fed, elle tarde sur le sujet. Oui, va y avoir un découplage forcé entre la politique monétaire de la Fed et celle de la BCE.
Exactement, parce que du côté de l'économie américaine, vous avez une situation qui est complètement différente. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau des taux, même sur le segment de l'immobilier, les taux élevés aux États-Unis pénalisent pas vraiment l'activité. On voit qu'on a très nettement un différentiel en termes d'investissement au niveau des entreprises. En Europe, les entreprises investissent très très peu alors qu'elles investissent massivement aux États-Unis. Bien sûr, derrière ça, il y a du déficit public qui est bien utilisé. Et Christian l'avait rappelé, la question des hausses de salaire, elle est bien sûr très importante aux États-Unis, mais elle est en grande partie absorbée par la productivité, ce qui n'est effectivement pas le cas en zone euro. Donc tout ça fait que le constat macroéconomique est complètement différent entre les deux banques centrales et on ne comprendrait pas aujourd'hui pourquoi la Fed se précipiterait pour également baisser ses taux. En revanche, c'est un problème pour la BCE. On sait bien que Christine Lagarde, et certainement elle va le rappeler aujourd'hui, elle va rappeler qu'elle n'est pas Fed dependent, mais la réalité, c'est qu'à un certain stade, elle l'est. Juste rappel, la semaine dernière, vous avez un membre du Conseil des gouverneurs, le chef de la Banque centrale autrichienne, alors c'est plutôt un faucon, qui rappelait, oui, je suis en faveur de cette baisse des taux au mois de juin. En revanche, on va être très prudent pour les prochains mois parce que justement le découplage avec les États-Unis, ça nous pose un problème au niveau du taux de change et c'est évidemment l'inflation importée.
C'est l'inflation importée.
Exactement,
c'est
qui ça. Va revenir sur la table et je pense que Lagarde sera interrogée probablement sur ce sujet.
Christian Parizeau, c'est un vrai danger l'inflation importée ?
Alors oui, ça rentre dans leur modèle parce que alors via le naturellement l'euro, hein, l'impact c'est pas de dire qu'on suit les États-Unis, on n'est pas le 13e district américain comme l'a rappelé un des membres de la BCE, mais aujourd'hui leur gros problème c'est clair que si d'un seul coup on avait l'euro qui dévissait, ça augmenterait énormément les prix de l'énergie et ça relancerait un vrai problème d'inflation importée. Donc ils sont très prudents. Maintenant, faut quand même relativiser, hein. Si la Fed baisse ses taux au mois de septembre, franchement, on a un petit décalage de 3 mois, vous croyez que ça va faire vraiment chuter l'euro? Donc tout dépendra naturellement de ce que fera vraiment la Banque Centrale Américaine, mais pour l'instant on n'est pas véritablement sur une divergence de politique monétaire. Si à 3 mois près, je ne pense pas qu'on soit sur une divergence. La vraie question, c'est si les États-Unis venaient à vraiment réaccélérer et que derrière l'économie européenne venait vraiment à se dégrader, là il y aura un problème de communication. Mais là ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt une économie américaine qui ralentit, une économie européenne qui va relativement un petit peu mieux par rapport aux mois précédents. Donc là, on n'est pas dans une divergence économique qui justifierait vraiment une divergence de politique monétaire. Mais c'est à surveiller. C'est clairement à surveiller. Ça fait partie des éléments que prendra en compte la BCE et naturellement qui jouera sur éventuellement leur choix dans les prochains mois.
Pour les prochaines décisions, Christopher ?
Oui, et c'est vraiment cet aspect-là. Ça va être à quel niveau on a un décalage entre la BCE et la Fed. Alors, du côté de la Fed, c'est vrai qu'on a un peu tous les scénarios qui se mettent en place. Moi, je commence à, même si c'est pas mon scénario central, à considérer que finalement, on pourrait ne pas avoir de baisse de taux du côté de la Fed. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez une inflation
de
l'année. Je vais vous expliquer. Vous avez une inflation aux États-Unis qui est à 3,4% sur les prix à la consommation. Selon mes modèles, on devrait être sur l'inflation autour de 3%, un plateau au niveau de l'été, et ça va être très dur quand même de baisser les taux si vous avez une inflation à 3%, ou en tout cas il faudra sous 3% pendant plusieurs mois consécutifs. De mon point de vue, l'inflation elle va diminuer aux États-Unis un peu sous 3%, plutôt à partir du quatrième trimestre. Plusieurs mois consécutifs, dans le meilleur des cas ça veut dire décembre, je doute que la Fed intervienne au moment de l'élection présidentielle. Donc la réalité c'est que le calendrier du côté de la Fed il est très très lointain pour baisser les taux, c'est pas du tout le même que du côté de la BCE. Et effectivement si on n'a pas de baisse de taux ou une baisse de taux en décembre potentiellement avec finalement pas un calendrier extrêmement important de baisse de taux en 2025, ça peut causer un problème effectivement en termes de décalage de politique monétaire. Le réel souci c'est qu'on voit l'amorce, on sait qu'on a ce pivot du côté de la BCE, on a eu d'autres banques centrale, ce sera plus tard du côté de la Fed, mais concrètement, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la suite, et Laure le disait dans un tweet ce matin, il y avait beaucoup de brouillard à Francfort, et effectivement, voit le premier pas, mais par la suite, ça va être compliqué.
Il n'empêche, est-ce que cette première baisse de taux, ça va permettre de relancer certains secteurs de l'économie européenne, comme l'immobilier, Christian Parizeau ?
Alors, oui et non, parce qu'on s'aperçoit qu'une grande partie de cette baisse des taux actée aujourd'hui est déjà dans le comportement, hein. Notamment les banques commerciales européennes ont déjà répercuté en grande partie cette baisse des taux. On l'a eu dans l'enquête que mène la BCE auprès des banques commerciales européennes qui ont montré qu'elles avaient déjà répercuté, déjà assoupli. L'impact sera relativement minime. Ce qui jouera beaucoup, c'est surtout les anticipations. Mais comme on vient de le dire, Madame Lagarde va nous dire on est data dependent. Ça veut dire que je vous donne aucune idée de ce que je vais faire dans l'avenir et je mets volontairement le flou. Donc du coup, ça va rendre très très complexe derrière les banques parce que si je vous dis, par exemple, si elle nous disait très clairement, je baisse les taux au mois de juillet ou septembre, bah, les banques le répercuteraient dès aujourd'hui. Donc, on voit qu'on va être quand même sur une position d'attente. Donc, c'est acté. Les bonnes choses sont déjà actées. L'avenir est beaucoup plus incertain. Donc, ça ne justifie pas forcément qu'on soit hyper optimiste lié au facteur baisse des taux.
Et on va suivre évidemment le discours de Christine Lagarde scrupuleusement, son vocabulaire scrupuleusement cet après-midi en direct sur BFM Business édition spéciale à partir de 14h. On passe au scandale des airbags défectueux qui prend de l'ampleur. Selon le Parisien, Stellantis serait en passe de rappeler 8 millions de véhicules en plus des 530 000 déjà visés par un rappel début mai en cause des airbags défectueux, donc de l'équipementier japonais Takata qui a fermé boutique depuis. Carole, un rappel de produire de cette ampleur, c'est dévastateur pour un groupe, même pour Stellantis.
Alors, c'est paradoxalement dévastateur pour des boîtes qui sont beaucoup plus petites. C'est-à-dire qu'un rappel sur des boîtes qui sont très petites, c'est peu ou prou la fin qui se profile derrière. J'ai regardé un petit peu les données justement pour voir c'était quoi les plus gros rappels sur les 15 dernières années. Et c'est vraiment un mélange entre l'industrie pharmaceutique et l'industrie auto. Donc en effet, Takata, c'est le plus gros de tout. C'est 24 milliards, ça dure depuis des années. Donc ça, c'est sûr que c'est un vrai problème. Mais d'un point de vue des fabricants de voitures, il y a différentes situations. Il y a eu Volkswagen en 2015 qui a quand même rappelé, je crois, 11 millions de voitures.
Avec le Dieselgate.
Exactement, avec le Dieselgate. Ça leur coûte 18 milliards. Derrière, l'action Volkswagen, elle descend, elle remonte un peu, mais grosso modo, elle reste un petit peu flat. On a la même chose avec General Motors aux États-Unis en 2014. Ça leur coûte 4 milliards. Ils rappellent 30 millions de véhicules. Donc pareil, c'est énorme. Conséquence, action un peu flat, mais il y a des bons exemples. On a eu Toyota qui a fait, qui a rappelé pour 3 milliards, ça leur a coûté 3 milliards, le rappel qu'ils ont eu en 2010. Et Toyota, l'action depuis, elle va très bien. Donc, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment bien géré et c'est anticipé. Le problème de cette situation, c'est la qualité de la gestion de la crise. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, qu'elle soit petite ou grosse, peut passer par des très très grosses crises comme ça. Mais c'est la qualité de la gestion de la crise et comment faire que ça ne s'endigue pas et que ça ne révèle pas un problème plus gros. Boeing, par exemple, problème 1, puis 2, puis 3, puis problème 48. À la fin, ça donne des effets qui sont une méfiance absolue dans le produit, des répercussions au sein de la gouvernance, etc. C'est, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre de la qualité de la gestion de la crise par Stellantis, parce que je pense que là où General Motors, par exemple, n'a pas forcément bien géré les effets de communication, l'après, je pense que Stellantis est bien armé. Donc, pour moi, c'est clairement... C'est pénible, ça va leur coûter beaucoup d'argent, ça c'est un fait.
Mais ils ont provisionné d'ores et déjà 1 milliard d'euros.
Ouais, mais je pense qu'un milliard, c'est pas assez. Je pense que ce sera plutôt.
Ah bah oui, c'est que le début là.
Ouais,
c'est,
ouais, non,
c'est pour les premiers airbags.
C'est pas assez, mais au-delà de ça, je pense que ce qui fait que certaines marques réussissent à s'en sortir ou pas, c'est vraiment la qualité de la gestion de l'après. Mm. Et on le voit, tous ceux qui se sont plantés, ce sont qui ont soit tué énormément de gens. Il y a eu une entreprise aux États-Unis qui a tué, je crois que c'était 300 personnes à cause de la salmonelle sur du beurre, du peanut butter. Bon bah voilà, l'entreprise derrière, rideau, au revoir, parce que quand ça tue beaucoup de gens, les gens n'ont pas ce côté on va pardonner entre guillemets cette erreur, et c'est un parallèle intéressant avec Boeing, puisque finalement maintenant les gens en sont à un stade où ils ont peur de monter dans un avion Boeing, alors que après le premier incident Boeing, les gens n'étaient pas en mode je vais éviter de monter dans un avion Boeing. Maintenant on en parle beaucoup.
Alors Boeing, justement, Boeing a réussi le lancement de Starliner hier. L'espace, on va en parler, hein, puisque ça y est, Jean-Baptiste, tu es. On a une date pour le premier lancement d'Ariane 6. Il est prévu le 9 juillet. Le défi est de taille, parce qu'il y a quoi ? 4 ans de retard sur le programme ?
On est entre 3 et 4 ans de retard. Et il y a surtout une pression assez incommensurable sur les équipes qui sont sur place. Déjà, vous l'avez dit, 3 ans de retard. Il a fallu se mettre d'accord sur des procédés techniques. Ça a été compliqué. Il y a eu des désaccords très profonds qui sont apparus entre les différents États européens, ce qui fait dire d'ailleurs que cette Ariane 6 est sans doute, dans le cadre des lancements, un des derniers programmes communs européens. L'avenir, le sens de l'histoire va plutôt vers le New Space, c'est-à-dire l'arrivée des entreprises privées qui
des nouveaux acteurs,
on le voit avec SpaceX, hein, qui s'occupe d'envoyer des fusées depuis maintenant plusieurs années avec la facilité qu'on connaît. Donc voilà, Ariane 6, grosse pression, parce qu'il y a derrière un carnet de commandes. Alors Ariane 6, c'est un lanceur polyvalent qui va être capable d'envoyer à la fois des satellites basse altitude, hein, en orbite basse, c'est-à-dire pour des constellations comme celle d'Amazon, par exemple, de Kuiper, mais en même temps envoyer des satellites en orbite haute à plus de 36 000 km pour ce qui sont des gros satellites de télécommunication. Donc le lanceur est polyvalent, s'adresse à tous les types de marchés. Maintenant, le carnet de commandes, il est rempli, hein, notamment il y a 18 commandes qui ont été passées par Amazon pour sa constellation Kuiper, et donc la pression est maximale. Si jamais il se plante pour ce premier lancement, en termes d'image, c'est évidemment absolument une catastrophe, et puis en termes industriels, c'est très compliqué, les clients vont fuir. Et puis, il va falloir que Ariane Group, qui est la maison mère donc d'Ariane Espace, en termes de cadence industrielle, puisse monter. Aujourd'hui, autrefois, on fabriquait les fusées à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on empilait comme des cubes. Aujourd'hui, tout a été revu, il y a du nouveau matériel. Elles sont fabriquées notamment avec l'impression 3D, ça va beaucoup plus vite. La fusée arrive sur son pâtir à l'horizontale et elle est redressée au dernier moment. Donc, en termes de logistique, il y a beaucoup de choses qui changent, mais les cadences vont évoluer. Il va falloir être vraiment très, très bon. SpaceX... Alors c'est
mais talent. c'est toute la difficulté, c'est que Ariane 6 aujourd'hui ce n'est pas un lanceur réutilisable comme SpaceX. Est-ce que le défi il n'est pas là aujourd'hui
On a dans Ariane 6 ce que l'Europe sait faire de mieux et de moins bien. De mieux technologiquement, on a des ingénieurs exceptionnels, on a des technologies de pointe qui sont parfaites, mais en termes de vision, de stratégie, on est complètement à côté. Effectivement, on arrive beaucoup trop tard. Il aurait fallu dans l'idéal que Ariane 6 puisse être réutilisable dès le départ. Là, on va perdre du temps. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est sans doute un des derniers grands programmes européens, puisque on va voir arriver et on voit déjà arriver toutes ces petites entreprises qui sont elles aussi capables d'envoyer des fusées.
Absolument.
Alors certes, beaucoup plus petites, mais voilà. Et à Kourou, d'ailleurs, il y a des espaces qui sont dorénavant réservés, donc Centre Spatial Guyanais. On a des pâtires qui sont réservés dans les années qui viennent à ces petits lanceurs, à ces micro-lanceurs qui vont capter une partie très importante du marché des satellites dans les années qui viennent aussi.
Il n'empêche, si le décollage d'Ariane 6 réussit, l'Europe va récupérer un accès souverain à l'espace, et ça, c'était quand même le bienvenu.
Alors ça, c'était quand même hallucinant. Enfin, on n'a pas eu de chance, c'est vrai, mais depuis plusieurs mois, on n'a pas d'accès souverain à l'espace, ce qui est quand même incroyable. On n'est pas capable d'envoyer nous-mêmes nos satellites. Pourquoi ? Parce que Ariane 5 est en fin de vie, parce qu'on a eu la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine avec la Russie, avec laquelle on avait un partenariat pour les lanceurs Soyouz. La Russie a tout récupéré. Et puis on avait un autre lanceur léger Vega qui a des problèmes techniques et qui est suspendu. Donc on ne pouvait plus envoyer de satellites. A priori, si tout va bien, ça devrait repartir à partir du 9 juillet. Maintenant, il va falloir délivrer.
Demain avec le directeur général du CNES. Il sera sur ce plateau à 7h45. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débrief de la matinale.